Shalom v'erev tov lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Beshah Tova dans le chapitre toujours Kaf Alef, Perek Kaf Alef, chapitre 21, verset Lamed Gimel, verset 33. Donc chapitre 21, verset 33, ceux qui ont des chumashim blancs, c'est page 99. On est toujours dans Parashat Mishpatim, donc toute cette dimension de nezek, de dommage que je peux créer envers mon prochain. Jusqu'à présent, on a parlé du dommage le plus important, à savoir l'esclavage. Ensuite, on a parlé de celui qui ôte la vie de son prochain, que ce soit volontaire, involontaire, que ce soit lui-même ou que ce soit ses biens. Et on commence à aller décrescendo. Ok ? Comme on avait expliqué, la paracha de Mishpatim va décrescendo dans l'importance du nezek, dans l'importance du dommage causé à l'individu. Vechi yiftach ish bor. Ok ? O ki yikre ish bor velo yichasenu. Venafa sham ashor o chamor. Baal abor yeshalem kesef. Yashiv le Baalav, Vehamet yé lo. Donc, on parle de quoi? On parle, cette fois, dans, quand on regarde la Gemara, dans le traité de Baba Kama, le début de la Gemara, de la Mishnah de Baba Kama, nous dit Arba Avot Nezikim, et on avait terminé de manière dramatique la dernière fois, hein? En disant que il y a arba avot nezikim, abor, ashor, slicha, abor, amavei, vaevaer, qui veut dire alors, littéralement le taureau, le puits, enfin le trou, plus exactement, c'est pas vraiment un puits, c'est une citerne. Et amavei, on sait pas ce que c'est, vaevaer, celui qui allume, pas très clair non plus. Et on avait dit comment ça se fait qu'il y a marqué arba avot nezikim, et non pas Arba Avot Nezikim Hem. C'est comme ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Alors qu'il y a d'autres endroits où on nous dit Arba Rasheshanim Hem, Arba Shomrim Hem. Eh bien, tout simplement, nous dit le Maharal de Prague que lorsqu'il s'agit de quelque chose de positif, alors on peut dire voilà, voici ces quatre et ils sont en permanence. Donc Arba Shomrim Hem, ils sont. Mais là, quand on parle de choses négatives, tu me chronomètres ? Ah, c'est du morse. C'est il nous donne le chiour en morse. C'est-à-dire, donc dès qu'il s'agit de choses qui sont négatives, eh bien, on ne veut pas les inscrire dans l'éternité. Donc on ne dit pas « hem ». On dit « pour l'instant, il y a Arba Avot Nezikim ». Mais ils ne sont pas « hem ». Parce qu'ils peuvent ne plus être. Ok ? Parce que c'est négatif, on ne veut pas les garder. Maintenant, c'est quoi ces quatre choses ? Eh bien, la différence, nous dit la Gemara, en fait... Ils ont tous un point commun. C'est quoi ? Chez Darkam, les Azik. Ils sont tous là en train de faire des dommages aux autres. Alors, quelles sont les différences ? On a vu le point commun, mais la différence entre les différentes formes de Nezakim, c'est qu'il y en a chez Yesh Bahem Ruach Chaim, et il y en a chez En Bahem Ruach Chaim. Il y a des éléments qui sont vivants et qui font des problèmes, et il y en a qui ne sont pas vivants et qui font quand même des problèmes. Là, on peut voir la différence donc, entre Shor et Bor. Le Shor, il peut faire des problèmes et c'est un être vivant. Le trou, c'est pas un être vivant, mais il peut quand même faire des problèmes. Il y a une autre possibilité de point commun chez Darkam, les Lech ou les Azik. Qu'ils peuvent faire des problèmes en avançant, en bougeant. Ça, ça peut être le Shor, ça peut être l'homme également. Mais c'est pas à ce moment-là le puits. Enfin, le trou.
Une pierre, non, qui roule.
Une pierre, quoi ? Elle roule pas toute seule.
Elle n'amasse pas mousson.
Eh, c'est ça.
Qui...
Si elle roule.
Un rocher qui tomberait.
Il faudrait qu'on fasse que une chavruta. On fait que des citations comme ça. Là, le rocher, il roule pas tout seul. Non, il roule pas tout seul. Ah, tu parles d'un éboulement ? Bah, un éboulement, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à personne.
Même si ça m'appartient.
Ah, si ça t'appartient et que c'est dans ton, dans ton domaine, c'est un autre cas. Et si c'est toi qui as lancé la pierre, bah, c'est donc justement que la pierre elle a pas roulé tout seul. D'accord ? Si c'est dans ton domaine, c'est dans ton champ, ou dans, t'as creusé un puits dans ton champ, et que quelqu'un, il est venu dans ton champ et il est tombé dans ton puits, est-ce que c'est de ta faute ? Ou est-ce que c'était à lui de pas rentrer dans ton champ ?
Bah oui.
Tu comprends ? Donc là, on va parler ici de quelqu'un qui a ouvert un, je dis un puits, mais ça peut être, c'est pas un puits, parce qu'un puits, c'est BR. C'est-à-dire, et la différence entre bord et BR, c'est que BR, tu as creusé, tu as trouvé de l'eau qui était souterraine, alors que bord, il n'y a pas d'eau. Tu as creusé un trou et tu y as mis de l'eau.
Une fosse ?
Oui, enfin, c'est plus une connotation d'eau. Donc citerne, c'est ça, j'ai dit citerne. Ok, mais je ne sais pas pourquoi le mot puits me vient plus rapidement en français que citerne. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, de quoi est-on en train de parler ? Adam, Rivtach, bor. Il y a un homme qui a ouvert une citerne, donc, mais on parle Bereshut Arabim. Parce que si c'est Bereshut Ayachid Shelo, c'est pas vraiment un débat. La personne n'avait qu'à pas venir sans être invitée. Sauf s'il s'agit de Shnat HaShmita. Mais sauf qu'à ce moment-là, ça deviendra de nouveau Reshut Arabim. Donc on est en train de parler de Reshut Arabim. Donc j'ai ouvert une citerne sur le trottoir. Alors, le trottoir, il appartient à tout le monde. J'ai ouvert une citerne. La citerne ne m'appartient pas, d'ailleurs. Le bord que j'ai fait, Bereshut Arabim, il n'est pas à moi. Il est à tout le monde. OK, il est à tout le monde. Mais par contre, c'est moi qui l'ai ouvert. Si quelqu'un se blesse, c'est de ma faute. Oui ?
Il y a une répétition, là.
Où ? On n'a lu qu'un seul verset pour l'instant. Veri yiftach ish bor, o ki yire ish bor. Parce que c'est pas la même chose. Celui qui est poter, c'est qu'il n'existait pas. Celui qui est irré, c'est qu'il était obstrué et moi, je l'ai remis en forme. Il était un peu ouvert. C'est-à-dire, mais maintenant, je l'ai remis en bonne et due forme. C'est-à-dire, hein? Par exemple, exactement. Ils ont réouvert. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Velo et chassenu. C'est-à-dire que normalement, si j'ai ouvert quelque chose, je dois également faire en sorte que il ne devient pas dangereux pour le public, et donc je dois le recouvrir, faire en sorte que les gens ne tombent pas dedans.
Enfin, ou bien j'ai pas compris, je crois que c'est le contraire.
De quoi ?
Rivtach, c'était un bord qui existait.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, j'ai dit l'inverse ?
Non, c'est ce que
je comprends. Attends, Yiftach, il était fermé, il est ouvert, et il a fait son bord. Ok ? Mais il ne l'a pas fermé. C'est-à-dire quoi, il n'a pas fermé ? Comment on fermait à l'époque ? Mais une grosse pierre. C'est-à-dire qui, d'ailleurs, elle, roule. Parce que sinon, c'est compliqué de l'enlever. Ouais. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on nous dit, Venafal, Sham, Shor, Ochamor. Et là, il va falloir se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin Shor, Ochamor ? Le Icaron, il est le même, a priori. Que le Shor, il tombe, ou que ce soit un Chamor ou un lapin, je m'en fous.
Et un homme ?
Non, c'est pas...
Un homme, non. Pourquoi un homme non ? Parce qu'un homme, il a qu'à faire attention.
Non, mais des fois, il y a des accidents.
Il y a des accidents, et quand ça arrivera, eh ben, il y aura quand même un tribunal et on va quand même juger. Mais on attend de l'homme une attention plus grande que du chor.
Donc un enfant, ça rentre dans la catégorie ?
Dans quelle catégorie ?
Du bœuf et de l'âne.
Un enfant de moins de 3 ans, ouais. Mais qu'est-ce qui va se balader tout seul, Bereshut Arabim ? C'est ça.
Là, la différence, c'est que l'âne, c'est l'élément de transport, quoi. C'est la,
nous,
la compagnie de transport, l'âne.
V.
C'est plus important peut-être que le bœuf.
C'est plus important que le bœuf, pourquoi ?
Je ne sais pas, je dis peut-être.
Tu sais combien ça coûte un bœuf ? Tu sais combien ça coûte un âne ?
Ça ne mange pas.
Hein ?
Oui, d'accord.
Les amis, Shor, c'est tous les animaux. C'est-à-dire, quand on te dit « Vechi, Nofel, Shor », ça peut être un chamor aussi. C'est-à-dire que le Shor, il englobe tous les animaux qui pourraient tomber dans ce trou. Et donc, à ce moment-là, tu es responsable de leur chute. Chamor, comme tu as dit, c'est un moyen de transport. Donc, ça veut dire que chamor, ici, ça veut dire un keli. le mot chamor ici, il ne fait pas référence à l'animal, mais à son utilité. Donc ça veut dire que j'ai fait, le chamor il est tombé, mais en fait, ma charrette elle est tombée. C'est ça. C'est pareil. Ok ?
Ma voiture.
Ta voiture. Il faut un gros bord déjà. Non, je ne dis pas le contraire. Baal abor, yeshalem kesef, yashiv le baalav, ve'amet yelo. C'est-à-dire que celui qui a creusé le bord, qui a ouvert le bord, eh bien, il doit payer. C'est lui qui est responsable. On a dit, c'est pas son puits, mais c'est lui qui l'a fait, ou c'est lui qui l'a ouvert, donc il est responsable. Résultat des courses, eh bien, il doit rembourser bah, le prix de ce que ça a coûté, ce qui est tombé. Par contre, Vehamet Yelo.
C'est qui l'eau ?
C'est au mec du puits.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'il est tombé, je te rembourse. Donc toi, c'est comme si tu pouvais t'en racheter un neuf. Mais maintenant, moi, je vais garder le truc, parce que je peux en faire quelque chose.
Ah, okay. Garder la peau.
Vendre, je sais pas, nourrir mes chiens.
Mais rembourser seulement, il n'y a pas une pénalité en plus ?
Non, parce que c'est pas, il a pas fait volontairement. Il n'a pas volontairement poussé le short dedans. C'est-à-dire ? Donc il est responsable de rembourser ce qu'il a fait. C'est-à-dire ? Veri gof shor ish et shor re'eu vamet. ומחרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. On est toujours donc dans notre histoire de puits, de citernes, et il y a cette fois mes biens qui ont poussé tes biens. Et ils sont tombés dans le trou. Et ils sont morts. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la poire en deux. Des deux. C'est-à-dire que, hé, mon taureau vivant, on va le tuer, on va le couper en deux. Et le mort à l'intérieur du trou, on le coupe en deux. Alors quand je dis on le coupe en deux, ça ne veut pas dire littéralement on le coupe en deux et chacun un truc. On partage la valeur. C'est-à-dire, il y a Rolliot que lui, il fait, c'est son business, c'est de faire des peaux, enfin des parchemins pour les Sifrei Torah. Alors lui, il dit, moi je veux que la peau. C'est-à-dire, et lui, il est propriétaire d'un chenil avec plein de chiens. Il dit, bah, moi je veux que la viande. Ça arrange. Ok ? On partage la valeur du truc.
J'ai pas bien compris celui qui est vivant. J'ai pas compris.
Bah, y en a un qui a poussé l'autre dans le trou. Y en a un qui est tombé dans le trou qui est mort. L'autre, il n'est pas mort.
L'autre, il n'est pas mort.
Donc, il y en a un vivant et un mort.
Mais alors, si un, il a plus de valeur que l'autre, on s'en fiche.
Non, mais jamais. Les deux, au final, vont mourir et les deux seront coupés en deux.
D'accord. D'accord. Ok.
C'est bon ?
Ok, c'est bon.
C'est bon ? On peut faire une dissertation dessus, mais ça m'a l'air assez clair, là, sur le coup. Non, c'est bon ?
Alors, c'est pas important si le chor, il est mouade ou pas ?
Si, bien sûr que c'est important. Ça vient maintenant. C'est vrai ? Attends, on a dit. Voilà, c'est vrai. Onoda ki chor nagahu mitmol shilshom. Tu vois ? Là, c'est important. Velo yishmerenu be'alav tshalem yeshalem chor tachat ha-chor ve'amet yelo. Si il s'agit d'un chor mouad, donc on a dit la semaine dernière, quelle était la différence entre tam et mouad. Tam, ça veut dire que c'est la première fois qu'il fait des problèmes. Mouad, récidiviste.
Sans témoin.
Sans témoin, parce que sinon on s'en serait déjà occupé.
Mais s'il n'y a pas de témoin, je suis désolé.
Parce que tu t'occupes pas de taureaux souvent. Ça doit être ça le problème. Ça, c'est quand la dernière fois que tu étais à la ferme ?
Bien longtemps.
Ah, t'as vu ?
Mais j'y étais.
Nous. Bekitsour, c'est un animal qui est violent, qui est nerveux. C'est-à-dire, et on le sait, tu le sais, et tu l'as pas gardé, tu es beaucoup plus responsable que l'autre, que le cas qu'on a évoqué auparavant. Donc, dans un cas comme ça, eh bien, tu vas devoir rembourser tout le prix de ce que ton bien a fait comme Nézek, mais tu peux garder l'animal mort qui est tombé dans le trou. Mais tu vas devoir quand même rembourser 100% cette fois.
Et
on partage pas.
Et on tue le bœuf qui est nerveux.
Ah, mais ça c'est évident.
Voilà, ok.
C'est ça ? Qui ignov ish shor ose utevacho o mecharo chamisha bakar yeshalem tachat ashor ve'arba atzon tachat ase. Ah, Frigg Nof Ish, Shor, j'ai volé un bœuf. je suis proche de voler également un œuf. Je t'ai attendu, hein. Franchement, je t'ai attendu. Mais effectivement, j'ai volé un bœuf ou alors un C. C'est quoi C?
Un mouton.
Un mouton. Un mouton. Voilà. Eh bien, il va avoir un din spécial. Tu dois payer 5 fois pour un bœuf et 4 fois pour un C.
Attends seulement si tu l'as égorgé.
Non.
Non, non,
on parle de... Oh Tevacho. Oh Mecharo.
Parce que là, il y a l'indemnité parce non, que c'est volontaire.
Utvacho ou Mecharo.
D'accord. Utvacho.
Ouais, mais si tu,
oh Mecharo.
Si tu l'as juste volé, tu payes pas.
Ah, si tu l'as juste volé.
Ouais.
Ah, si tu l'as juste volé, ce qui va se passer, c'est que tu... Donc, y a la personne, elle s'en est rendue compte. Elle t'a emmené au Beddin. C'est-à-dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si à ce moment-là, effectivement, tu as perdu, tu vas devoir non seulement lui rendre et. Tachloumé Kefel. C'est-à-dire que tu vas payer le double. Tu vas lui rendre non seulement ce que tu as volé et un autre. Mais si tu as voulu en tirer profit,
encore plus.
À ce moment-là, c'est 5 ou 4. C'est-à-dire? Donc pourquoi cette différence entre 5 ou 4? Parce qu'on a plus tendance.
C'est moins cher qu'une.
Et alors, bah alors justement, alors il faudrait en donner plus.
Ah non, il y a peut-être plus de moutons que de bœufs.
Non.
D'abord, il y a plus de moutons que de bœufs, mais ouais. C'est pas ça le débat. Justement, s'il y en a plus, donc tu devrais en donner plus.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais 5 pour le bœuf et 4 pour la brebis.
Nous, c'est plus cher un bœuf.
Ah oui.
Donc tu devrais en donner moins.
Bah, je sais pas, je suis allé.
Il a volé un bœuf.
Je suis allé chez le boucher.
Nous.
J'ai demandé combien ça coûte un kilo de bœuf et un kilo de brebis, c'est pas le même prix.
C'est pas le même prix. C'est ça, hein. Donc tu dis, la Torah, elle parlait déjà, Bizman à Atid. Pachout, on a expliqué déjà, la punition dépend de quoi? Pas seulement de la valeur, mais également de la shrichut, c'est-à-dire de, comment dire?
Probabilité.
La probabilité, merci, de faire le larcin. Il y a plus de cas de vol de bœuf à l'époque que de vol de brebis.
Ça a changé depuis.
Hein?
Je crois que ça a changé depuis.
Peut-être que ça a changé depuis, mais pourquoi à l'époque? Bon, pas shoot. C'est calme de voler un bœuf.
C'est plus facile de voler un mouton qu'un
bœuf. Eh ben non. T'as jamais volé de mouton. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui vole un mouton, qu'est-ce qu'il fait pour voler le mouton? Ouais, il le court vite fait après, il l'a chopé, il le met sur ses épaules et il s'en va. Attends, tu sais ce que c'est de voler un bœuf?
C'est plus compliqué.
Non, mais ça veut dire quoi, c'est plus compliqué? C'est-à-dire que le mec...
Il court après le bœuf, il le met sur ses épaules.
Mais le bœuf, 400 kilos.
Mais c'est possible. C'est, je pense pas qu'il va mettre le bœuf sur ses épaules. Hein, je pense pas. Mais le bœuf, il fait pas de bruit. Un bœuf, la nuit, ça se vole tchic-tchac. Tu lui donnes un peu de manger, et il avance doucement, et il s'en va, et il est tranquille. Alors que le mouton, ben... Donc on a plus tendance à voler un bœuf que de voler un mouton.
Pas seulement pour ça, parce que c'est aussi un outil de travail.
Oui, bien sûr, c'est un outil de travail, et que le mouton, c'est juste un truc pour faire un shawarma. Bien évidemment.
C'est de la laine.
Alors oui, oui, mais... Pas avec tous les moutons, on fait de la laine.
Bah oui, ça dépend des variétés.
Parce qu'il y a des moutons qui ont une laine qui n'est pas de bonne qualité.
Ouais.
Et avec laquelle on ne peut pas faire de laine. Aujourd'hui, pratiquement tous les moutons qu'on a en Israël ou dans la région, on ne fait pas de laine avec. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui faire la mitzvah de Reshit Hagez. Pourquoi on ne peut pas faire la mitzvah de Reshit Hagez? Reshit Hagez, c'est quand tu fais la première tonte à un mouton. Eh bien, tu dois le donner au Cohen. Non, ça fait partie de toutes ces mitzvot que tu donnes au Cohen, parce que le pauvre, il ne travaille pas. Donc, il a besoin d'argent. Donc là, tu lui as donné de la laine, bah, très bien, il va pouvoir soit en faire des habits, soit la vendre, machin, et donc ça va lui faire de l'argent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la laine qui est de mauvaise qualité, ça va lui coûter plus cher de la traiter pour pouvoir en faire quelque chose que de s'acheter un t-shirt. Donc, bah, il n'en veut pas. Ok? Bekitsour!
Ça représente tous les animaux aussi, comme on a dit dans...
Yeshpo, Xerat Akatuv, Ben, Shor, Vassé. Le reste des animaux, eh bien, la Torah ne donne pas cette dimension de 4 et 5. C'est une Xerat HaKatuv. Pourquoi ? Parce que c'était les animaux de l'époque. Aujourd'hui, tu voles un animal, bah, de toute façon, le tvacho, quel autre animal tu vas manger ? Tu vas voler quoi ? Une poule ?
Un cheval.
Un cheval, tu ne vas pas le manger.
Non.
C'est-à-dire ? Donc, aujourd'hui, si jamais ça devait arriver, le Beit Din devra être posek selon le cas. Ok, mais là, on a une Xerat HaKatuv. Donc, ok, on a compris celui qui vole.
C'est-à-dire, même de nos jours, le Beit Din...
De nos jours, le Beit Din, il ne tranche pas aujourd'hui comme ça.
C'est-à-dire,
si demain, tu vas voir le Beit Din, tu dis, le mec, il m'a volé une poule.
Non, pas une poule, un bœuf.
Un bœuf.
Ou un mouton,
normalement, il peut trancher, Khamishit. Okay. Est-ce qu'il va le faire ? Il va peut-être trouver des circonstances atténuantes, et machin. Im bamachteret yimmatse aganav. Veuka vamet en lo damim. Ah, c'est quoi cette histoire ? Im bamachteret yimmatse aganav. Le voleur a été trouvé bamachteret. C'est quoi bamachteret ? Voilà, dans la cave, et c'est un endroit caché.
Il était pris sur le fait, quoi.
Oui, mais dans un endroit où il n'était pas dehors. Il faisait les choses cachées. Et à ce moment-là, Veuka va mettre En lo damim. Lemi. Misez, Veuka va mettre En lo damim lemi. Regardez ce que dit Rashi. En zo retzicha. Hareu kemet mi ikaro. Kan limdecha Torah. אם בא להורגך, אשכם להורגו. וזה להורגך בא, שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו בפניו ושותק. לפיכך, על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יארגנו. זה לא טקסס, ליגה. התורה של טקסס. סביד יחקוע, סביד יחקוע, סי הנום יביין תבולה שתוע, dans un endroit se cacher, la nuit, machin. Si tu le tues, t'es pas tour. Pourquoi ?
Self-défense.
Hein ? Self-défense. Il a juste voulu me voler. Bien fait. Rachid dit, non, on peut penser déjà, d'ores et déjà, qu'il était prêt à te tuer. Parce que... Mais au début, il voulait te voler l'argenterie.
C'est
ça, il voulait te voler l'argenterie. Mais Rachid te dit, tout le monde sait que quelqu'un qui vient te voler, eh ben, t'es prêt à défendre. Personne ne va se laisser voler sans rien faire. Et donc, toute personne qui vient voler son prochain en secret, il est prêt également à le tuer si jamais il faut.
Je comprends pas la différence entre.
Il y a une exception ? Pourquoi ?
Attends, je veux voir, c'est vis-à-vis d'Hachem.
Deux secondes. Déjà, je vais essayer d'expliquer ça avant d'arriver au père et au fils. Nous ? Quoi ?
Quand on dit en secret, un voleur, il se cache toujours pour voler.
Non.
Il ne va pas venir voler ouvertement. Hein.
Si.
Il ne fait pas ouvertement.
Comment ? Un exemple concret.
Tu t'es jamais fait voler ton téléphone sur la plage ?
Par exemple ?
C'est devant tout le monde.
Ah, ça c'est...
Dans la rue, les mecs sont arrêtés au feu, et il y a un scooter qui arrive et il te vole ton... Il prend la main par la...
Ah, ok. D'accord. Ok, ça c'est...
Un vol à l'arraché.
C'est-à-dire,
ça, c'est officiel. Et donc, ce mec-là, il sait que si jamais il se fait prendre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'enfuir. Donc, lui, il n'est pas prêt à te tuer. Ok ? Donc, c'est ça toute la différence entre les deux. Effectivement, maintenant qu'on a expliqué le cas général, il y a quand même un cas particulier, c'est le père et le fils. Si jamais le père, il vient voler son fils. Donc, le fils, il vient voler son père.
Ça peut arriver, ça ?
Bah, tu regardes pas beaucoup de séries télévisées.
C'est
ça. Hein, hein, ça existe pas, ça. Ça peut pas arriver. Si, ça peut pas arriver dans les familles où il n'y a rien à voler chez les parents. Ça, c'est nachon. Quand il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de problème.
C'est pas courant.
C'est pas courant.
Si la Torah en parle, c'est courant.
C'est même très dangereux parce que c'est dans la plus d'obscurité. Le père prend le fils pour le voleur et il le tue.
Nachon. Le prend, il est le voleur.
Oui, il est le voleur. Nachon. C'est...
Non, mais attends, c'est le fils qui son père, c'est...
C'est grave, hein.
Ah ouais, quand même.
Hein, c'est grave, hein. Ouais, bah oui, c'est grave.
Mais t'as pas vu de série télévisée où les fils, ils tuent leur père ?
Si.
Non.
Bah non, j'ai pas vu de série télévisée, moi j'ai lu le Tanakh. C'est une série pas mal, le Tanakh, en plein d'épisodes.
Il y a plein d'actions.
Donc on te dit, Enodamim, Im Zacha Hashem Eshalav, Damim Lo, Shalem Yeshalem, Im En Lo, Venimkar, Bignevato. Donc si par contre, il vole à l'arraché, et qu'il le tue quand même, cette fois il est oui coupable. Mais pas pareil que celui qui a stam tué quelqu'un, bien évidemment. Ok ?
Et mais si. Il le tue volontairement, parce qu'il peut vouloir se défendre et l'autre il tombe et il meurt.
C'est-à-dire, donc tu re-rentres dans le cas de Mézid, Chogeg, machin, ça se vérifiera au tribunal.
Voilà, donc on rentre dans ce cas-là.
Bien sûr, bien sûr. Im matze beyado ageneva, mishor at hamor, atze chaim, shenaim le shalem. Et ça, c'est ce qu'on avait dit avant que tu nous précèdes. Quand quelqu'un il a volé quelque chose, mais qu'il n'en a pas encore tiré profit, et qu'il ait pris la main dans le sac, il doit non seulement rembourser, redonner ce qu'il a pris, et rembourser le double. Non, il n'est pas marqué ici. La halakha, elle nous explique qu'il y a plusieurs cas.
D'accord.
Okay. Maintenant, je voulais juste revenir sur le premier verset du chapitre 22 qu'on a lu. Donc, « Im bamarteret yimatze agana ». Alpi akabala, bon là, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est alpi halakha. C'est-à-dire, on utilise les versets, pashut, alpi apshat. Alpi akabala, ce verset, il fait référence directement au christianisme. Chachmag Mekoubalim, ils ont dit « Im bemarteret imatze aganav » c'est le christianisme. Lama, ma kesher. Eh bien, ils te disent « Celui qui met « mach » avant les terrettes, alors ou ganav ?» Ben, c'était pas de l'hébreu non plus, donc je peux pas te le dire en français. D'accord. Le mot, c'est « Im bemarteret imatze aganav ». Alors, on te dit « Im mach » Lifne teret, az yimatse shehu ganav. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, il n'y a pas marqué mar, il y a marqué mach.
Mach.
Eh oui, c'est chachouv. Parce que mar, c'est monsieur, mach, ça ne veut rien dire. Parce que ici, il ne s'agit pas de. Ce n'est pas des mots. Mach, ça fait combien en gematria?
48.
48. Et teret, si je ponctue différemment, c'est torot. Ok ? Celui qui place les mach avant les torot, ou ganav, celui qui place les 48 prophètes, il y a 48 prophètes. Non, pas petit, c'est toi qui es petit. Quoi, 1m2 ? Celui qui place les prophètes avant Torah de Moshe, Torot, Torah Shebirta, Torah Shebealpe de Moshe, Az ou Ganav.
Et on peut le tuer et sortir.
Qui a parlé de le tuer maintenant?
Chapal,
non, non, là, on n'a pas parlé de Halakha là. Non, j'ai dit, on a d'abord expliqué. Non. On a d'abord expliqué Alpi Halakha, maintenant on explique Alpi à Kabbalah ce que veut dire ce verset. Et ça nous explique aussi une chose très importante. Le christianisme croient normalement aussi à ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Je dis normalement, bien sûr, parce que dans les faits, on sait bien que l'Église catholique, elle s'est fondamentalement éloignée du Tanakh, à tel point que c'était pratiquement interdit d'étudier le Tanakh. Pas officiellement, mais quand même.
C'était officiel.
Quoi, il y a eu un interdit officiel? Ouais, je m'en rappelle plus.
Top. Ça a été dit, mais ils ont enlevé les pages.
Je ne me rappelle plus. Top, alors, Bichlal, interdit officiel. Donc, quel que soit le mouvement chrétien, eh bien, Yishayahu était toujours plus considéré que Moshe. C'est-à-dire que, dans la doctrine chrétienne, les paroles des prophètes, Zepo, Vetorat Moshe, Zeh Katan, les prophètes, ils ont parlé de choses extrêmement élevées, de justice sociale, ils ont parlé de comment Dieu se dévoile, machin, nanana.
Ils ont fait allusion au Fils de Dieu aussi.
Ah, je ne savais pas. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont même dit que Ishaïa, il avait parlé de lui au chapitre 53. Et Zecharia au chapitre 12. Hein, tout ça, hein. Ouais. Nous, malasot. Il y a une fois un je sais pas s'il était, je sais pas quel était son rang dans l'église, je sais pas s'il était évêque ou pas, mais à Paris, il est venu voir Manitou, vous avez un, je sais pas, un colloque, je sais pas quoi, et il a dit, vous savez, c'est marqué clairement dans le Tanakh, enfin, l'histoire de la Vierge. Il dit, ah bon? Il dit, bah oui, il y a des versets qui parlent dans Michelet, dans Yov, qui parle de Aalma. De Aalma qui est Olida. C'est clairement, c'est ça que ça veut dire. Et Manitou lui a dit, oui, mais vous savez que quand on cite le Tanakh, on a le droit, c'est très bien. Mais il faut avoir lu tout le Tanakh. Parce que le terme de Aalma est amené aussi dans Michelet, justement, de manière un tout petit peu différente. On appelle dans le Tanakh Alma quelqu'un qui a été couché avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Ce qui est problématique. Maintenant, d'un autre côté, quand tu lis les évangiles et que tu dis que Joseph, bah, bon, sa femme elle est enceinte. Ça, c'est, bon, c'est comme ça. Et il dit que c'est pas lui. Bon. Alors après, tu peux construire une théologie comme tu veux. Mais d'après le judaïsme, quand une femme est enceinte et que le mari officiel, il dit « c'est pas moi », ça porte un nom. Mais on n'est pas là pour juger hein, les gens du passé. Tout ça pour dire que ça veut dire quoi de mettre les marques avant les taureaux? Pourquoi est-ce que dans le christianisme, on place les paroles des prophètes avec une importance plus grande que celle de Moshe, de la Torah? Parce qu'ils te disent, voilà, les prophètes, ils ont parlé de grandes choses, ils ont parlé à l'universel, alors que la Torah de Moshe, elle s'occupe de ton chor, de ton bœuf là qui a encorné le bœuf de son voisin, et ça parle que au Ham Israël. Donc c'est katanyoter. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est que, d'abord, premièrement, tout ce que les prophètes vont dire dans les Nevi'im et les Ketuvim, ils n'ont rien inventé, tout est déjà marqué dans Torah de Moshe. Ils ne font que redire ce qui a marqué dans la Torah de Moshe, des fois en long, en large et en travers. Moshe, des fois, il a utilisé un verset qui fait deux chapitres entiers dans Ishaïaou. Et deuxièmement, ce n'est que lorsque tu as compris quel était le message que HaKadosh Baruch Hu a adressé au peuple juif que tu peux rayonner à l'universel. C'est ça? Oui, non, ça, je te parle pas, ça sans Bichlal, sans rentrer là-dedans, bien évidemment.
Il y a des juifs qui disent, nous on est juifs de cœur, est-ce que ça rentrerait un petit peu dans cette catégorie?
Pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, un juif qui fait pas les mitzvot, mais qui se dit, moi je suis juif, il se revendique pas comme chrétien.
C'est dans la pensée aussi.
Non, mais il se revendique pas comme chrétien.
Non, il se revendique.
Ben voilà, donc ça n'a rien à voir.
Non, mais il y a pas toute une partie.
Ah ben oui, mais c'est pas bien de ne pas faire les mitzvot. Je suis pour les mitzvot. Mais c'est pas parce qu'il dit que je suis juif de cœur, machin, qu'on va le considérer comme un chrétien.
Faut pas comme un chrétien.
Faut pas pousser.
Mais comme un voleur, là.
Mais non, c'est pas un voleur, c'est un misken. Ouais, c'est dommage qu'il fasse pas la Torah.
C'est un
misken.
Un misken, oui.
C'est dommage. Il rate une occasion de dévoiler la Kdusha Tabechira. C'est chaval. Il faut l'aider. C'est nous. Ça. Ok. Qui... Ouais, non, c'est bon. Qui yiva'er ish sadeh okerem veshillach et beiro ou bier bisdeh acher metav sadeh ou metav karmo yeshalem. Donc là, on parle de quoi? On parle de celui qui a mis le feu. Mais au début, on ne parle pas de quelqu'un qui est méchant. Veri yivar ish sadeh au kerem ve shilach et beiro besdeh acher. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un rachat ou c'est par inadvertance? Quelle est la suite du verset? Kitet se esh ou matza kotsim ve nechal gadish o kama o sadeh, shalem yeshalem amavir et abeira. Donc, quelle est la différence entre les deux versets? D'un côté, on te dit, il y a un mec qui a clairement allumé, veut shilach et aesh. Donc, dans le premier cas, c'est quelqu'un qui a allumé et qui a aussi allumé le voisin. Et dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui a allumé un Medoura de l'Akba Omer, chez lui, tranquille. Et à la fin de la soirée, il en avait marre de rester à côté du feu. Et il n'a pas réussi à l'éteindre, ni d'une façon ni d'une autre. Et il y a eu du vent, et il y a une braise qui a volé dans le champ du voisin, et ça a créé un incendie terrible. Ah, il n'a pas voulu. Mais il y a une différence. Shalem yeshalem amavir et abeera, il doit payer pour les dommages. Alors que s'il l'a fait volontairement, il doit également donner la meilleure partie de son champ. Parce que ça ne suffira pas de payer pour les dommages, il doit être aussi puni. Ok ? Ki iten ish el reu kesef o kelim lishmor vegunav mi bet haish im imatze haganav yeshalem shnayim im lo imatze haganav venikrav baal habayit el ha'elohim אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיום אלוהים ישלם שניים לרעהו. On parle de quoi? De dîner שומרים. Il y a dans la halakha une différence entre ce qu'on appelle שומר חינם et שומר פחינם. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit « Tu peux me garder ça, s'il te plaît, jusqu'à demain ?» Il dit « Ok, je ne suis pas achaï. Je ne suis pas responsable du truc. Je ne suis pas responsable. Je te le garde. Si jamais il est détruit, machin, c'est pas de ma faute. Val, si je te dis « Tu me gardes ça et je te paye 100 shekels, tu deviens responsable. » C'est-à-dire important pour de nos jours, quoi. De nos jours, très souvent, on demande à nos proches « Tu peux me garder ça, tu peux me truc, machin. » Il faut savoir que quand est-ce qu'on est responsable, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et donc là, pareil, on va te dire, quand tu vas voir mais c'est à Elohim, dans les versets, on te dit « Yavo el à Elohim. » Les juges. Au tribunal, eh ben, on va voir si t'es Chayav Bashmira ou lo. Ok ? Alors, ma Corée, quand... Je suis chayav, mais que je dis que je suis pas chayav.
Ça dépend des témoins.
Il n'y a pas de témoins, là. Il n'y a pas de témoins. Moi, je t'ai dit, tu peux me garder ça. Tu peux me garder ça, et je te payerai pour ça. Tu dis, ok. Et puis après, bah, tu as perdu le truc, tu l'as utilisé, machin. Et le mec, il dit, attends, je t'avais demandé de me garder. Je t'ai même dit, je te payais pour ça. Tu ne m'as jamais rien dit. Bon, bah, tu viens au tribunal avec moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a ce qu'on va appeler shvua. C'est dans plusieurs cas. Hein. Ça peut être aussi parce que je t'ai prêté de l'argent et que tu dois me le rendre et tu dis, mais c'est pas vrai, tu m'as jamais prêté de l'argent. C'est-à-dire ? Donc, dans plein de situations, il peut y avoir chiyuv shel shvua. C'est-à-dire, tu dis que c'est pas vrai. Alors, tishava b'shem Hashem. Non, c'est quoi le rationnel qu'il y a derrière ça ? C'est qu'à l'époque... les gens avaient peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Et que donc la shvoua, c'était quelque chose qui était suffisamment fort au niveau de la répression. Parce que si la personne, elle a volé, elle n'osera pas prononcer le nom de Dieu pour couvrir son vol. C'était le Hava Amina de l'époque.
On n'avait pas d'autre moyen de découvrir la vérité, en fait.
Non, pourquoi ? Tu peux faire une investigation, machin. Et puis ouais, des fois, il n'y a pas de moyen. Mais on se dit que la personne qui a volé, elle n'osera pas dire le nom de Dieu pour couvrir son vol.
Non, s'il y a des preuves...
S'il y a des preuves, il n'y a pas besoin de choix.
C'est ça, c'est pour ça. C'est seulement quand il n'y a plus d'autres solutions.
Oui, évidemment. Mais je dis, pourquoi est-ce que c'est pas que ça va nous amener la vérité. C'est juste qu'on se dit qu'il n'osera pas. S'il n'ose pas, alors c'est qu'il a quelque chose à se reprocher.
C'est-à-dire ? Il n'y a pas du contraire dans ce cas-là.
De ah, s'il y a un contrat écrit, c'est Kvar Lo Chinam. C'est-à-dire que moi, tu me rends un service et en contrepartie, je te donne quelque chose. Ça a donc c'est plus la même chose. Donc ici, il s'agit de ce qu'on appelle Shvoa. Maintenant, des fois, il y a des gens qui refusent d'admettre, mais qu'à moitié. Par exemple, je t'ai prêté 100 shekels. Et je voudrais que tu me les rendes. Je dis, bah alors ? Bah, je t'ai déjà rendu 50. Tu te rappelles pas, il y a deux semaines ? C'est pas vrai. Azem Hachenikra a modé be miktsat. Modé be miktsat. Il reconnaît un peu.
Admet
un petit peu. Pas en entier. Lui, il est chayav shvoua. Parce qu'on pense, à l'époque, et encore une fois, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, il doit jurer au nom de Dieu. Maintenant, à l'époque, on se dit que s'il dit « je te dois rien », on ne lui demande pas de jurer. Parce qu'on se dit « ah, devant quelqu'un à qui il sait qu'il doit de l'argent, il ne dira pas « je te dois rien ». C'est-à-dire, Gvar Agmara, à l'époque de Agmara, ils disent que « Mishé Rabou Achatsoufim » Batlash voit. C'est-à-dire depuis l'époque où les gens ils sont chutzpanim et c'est des menteurs professionnels, on ne peut plus se fier à la chevoie. Aujourd'hui, il dit, je te jure, c'est la Torah d'Israël. La Torah, mon frère.
La tête de ma mère.
La tête de ta mère. Donc c'est caché. C'est-à-dire, donc ça, c'est malheureusement, on ne peut plus le mettre en pratique aujourd'hui. Qui t'a niché le réou, chamor, chor, sev, chol, behema, lishmor, ou met, onishbar, onishba, enroé, chvoa, c'est ce qu'on vient de dire, chvoa, tachem, t'ye ben shenem, im lo shalach yado, bim lechet réou, velakach, bealasticha, velo yeshalem. Vim ganov, yganev, meimo, yeshalem, le bealav. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. D'accord? Im tarof, yitaref, yevieu ed aterefa, lo yeshalem. Si ce que je devais garder a été bouffé, eh bien, non, bouffé, il y a un animal qui est venu le manger.
Ah, d'accord.
Okay. J'amène un témoin de ce qui vient de se passer, parce que ça veut dire quoi ? Ça s'est passé dans le domaine public, ou alors dans mon champ, mais à l'extérieur. Donc il y a des gens qui ont pu voir. À ce moment-là, j'amène une preuve que mettre que c'est pas de ma faute. À ce moment-là, l'eau est chalée.
Mais si c'est un chômeur sakhir.
Non, si c'est un chômeur sakhir, il est mévater à la sakhar. Chômeur sakhir, il est responsable de la chose, tant que c'est sa responsabilité. Mais si c'est pas sa responsabilité, il y a des fois des choses.
Non, mais honnête, il n'est pas responsable de honnête.
C'est ce que vient de dire.
Même le
chômeur Sahara. C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc il est mévater à la Sahara. Il va quand même pas être payé. Non, il va pas être payé. T'es payé pour me rendre un truc à la fin. Tu m'as pas rendu.
Il mesure aussi le taureau, il est sorti de l'enclos, il a été tué par la faute.
Ça, c'est sa responsabilité alors.
Ah oui, mais c'est la faute qui doit.
Mais pourquoi il est sorti de l'enclos ?
Oui, mais c'est la faute qui
doit. Et pourquoi il est sorti de l'enclos ?
Ah voilà, pour quelle raison il est sorti de l'enclos ?
Ah bah c'est ta faute, t'avais qu'à fermer la porte. C'est ça ?
S'il y a des témoins.
Oui, s'il y a un témoin, mais s'il ne peut pas fournir de témoin et qu'il dit qu'il a été mangé, c'est comme l'autre qui dit n'importe quoi.
Non, mais si la porte, par exemple, les restes. Le reste, voilà.
Ah, mais si tu trouves une preuve, c'est un témoin. Okay. Tu peux prouver la chose. Ok. Quoique, est-ce que c'est pas toi qui t'es fait un barbecue et qui a laissé les restes ? C'est compliqué.
Je ne tuerais pas. Un mouton comme le loup.
Ah, tu peux couvrir la chose. Tu sais, il y avait en France une grande histoire, je ne sais plus quel siècle c'était exactement, je crois que c'était au 18e, avec la bête du Gévaudan. Mm-hmm. Tu te rappelles de la bête du Gévaudan ?
Et moi, je me rappelle de...
Non, parce qu'il paraît qu'à la fin, c'était un mec qui a tué... Qui avait un...
De Yosef, je me souviens aussi.
Ah, tu te rappelles de ça aussi ?
Ouais.
Et enfin, ça n'a pas marché.
Très jeune à l'époque.
C'est ça. Et ça n'a pas marché.
Ben, au début, ça a marché.
Donc, tu vois ? C'est-à-dire ? Donc tu vois qu'on peut faire croire. C'est tout exactement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe si je cause un dommage à mon prochain, mais mon prochain est d'accord ? Je porte une atteinte à mon prochain, mais il est d'accord. Exemple. Un quoi ? Un truc à l'assurance ? Quoi l'assurance ? Je ne supporte pas un dommage.
Un faux feu,
comme
un
ça.
Un faux feu d'un entrepôt.
Il y a des gens qui font
mais c'est un voleur. C'est un voleur. Ça n'a rien à voir. Là, je porte un dommage à mon prochain, mais mon prochain, il est d'accord. La compagnie d'assurance, elle n'est pas d'accord que tu la voles. Non ?
Oui, c'est pour ça que je parle d'arnaque à l'assurance.
Quoi, un médecin qui va opérer quelqu'un et...
Non ! S'il lui crée pas un dommage !
Il va l'opérer, mais il s'est trompé, donc il va lui créer un
dommage. Mais ça, c'est
mais il n'est pas d'accord qu'il se trompe ! Excusez-moi, est-ce que vous serez d'accord que je fasse une erreur médicale ? Hein ? Les amis !
Non, il était d'accord qu'il l'opère.
Nous, Bémet ! Il était d'accord qu'il l'opère, mais c'était pas pour lui créer un dommage. Ça a l'air.
Bon, il
ne fais pas médecine, toi. Hein. S'il te plaît. Pour le bien du peuple juif et du monde entier. C'est compliqué.
Déjà, la bouffe, on a du mal.
Non, personne n'a entendu.
Vechi
yefate ish betula.
Tu vas où tu vas
bah, le verset qui suit.
C'est... Pourquoi tu...
De quoi ?
On a fait d'exemple.
Non, c'est bon ? Ah, j'ai pas donné d'un autre exemple. Tu veux un autre exemple ? Un autre exemple avant celui qui est par Merkila. Eh ben, très bien. Par exemple, je suis tatoueur. Et je vais faire un tatouage à mon ami. C'est lui qui m'a demandé. Ben, non seulement je lui porte un dommage, parce que c'est assaut. C'est pas sourd pour moi de tatouer, c'est sourd pour lui de se faire tatouer. Donc je lui crée un dommage, mais c'est lui qui m'a demandé, il est d'accord. C'est-à-dire, par exemple. Ou alors, ici, le cas plus probable, « Vechi yefate ish betula asher lo orasa veshachav ima » Verset tetvav. « J'ai séduit, un homme a séduit une jeune femme » vierge et pas fiancée. Donc elle est libre. Et il a couché avec elle. Comme ça.
Et ça c'est...
Elle était d'accord.
Oui, elle était d'accord, mais c'est pas... Il a couché avec elle, donc il est marié avec elle maintenant.
Non, il n'est pas encore marié avec elle parce qu'il n'y avait pas de Edim, il n'y avait pas de truc, machin, donc il n'a pas fait ça derrière Khatanout.
Ah, parce que je pensais que c'était une des...
Oui, c'est une des façons, s'il y a des témoins.
Alors il y aura beaucoup de gens...
Pas des témoins dans la chambre. C'est pas des témoins dans la chambre, c'est des témoins qui les ont vus rentrer ensemble dans la chambre et ils savent quelle est la kavana des deux.
Mais il a le droit de se marier, puisqu'on dit que d'après la Torah, le mariage s'acquiert par une bien.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut écouter les questions des gens. Parce que c'est exactement ce qu'elle vient de dire il y a 10 secondes.
Ah, je n'ai pas bien écouté.
Eh bien, c'est ça le problème. Non. Donc, oui, ça s'acquiert par une bia, mais que quand il y a des témoins.
Moi, je dirais que si tous les gens qui ont des relations, à un moment donné, sans être mariés, devenaient automatiquement époux...
Mais c'est donc, d'accord. Non, mais Bichlal, aujourd'hui, des Rabbanan, la bia, ça ne marche plus. Il faut la Ktouba. Ça veut dire, donc ça, c'est Bichlal, on a réglé le problème à ce niveau-là. Mais là, on te parle de quelqu'un qui a accouché avec une jeune fille. C'est quoi le dommage qu'il lui a créé ? Elle a perdu sa virginité. Alors attention, vous êtes prêts pour une phrase qui va faire un remue-ménage dans tous les internets ? Elle coûte moins cher, maintenant. Oh, comment tu peux dire ça ? La Torah a été écrite à 3500 ans, je tiens à vous le rappeler, le langage utilisé, les concepts utilisés ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, une femme n'est pas un objet qui se monnaie. Non, une femme ne coûte pas. Bien sûr que non. Hein ? Non, la Ktouba, ça n'a rien à voir.
Il y avait des règles, combien on donne à...
Ah ben bah évidemment, il y a bah attends, des dommagements. Donc ici, on est en train de nous dire quelque chose de fondamental. On nous dit, celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben voilà. Ma'or yim ha'rena lo le'isha. D'abord, on lui dit, le mec, il va l'épouser. D'abord. Ve imma'en yema'en avia lita letita lo. Kesef yishkol kemo'ar ha'betulot. C'est-à-dire, soit il l'épouse, et donc bah, il va lui donner la dot des jeunes filles vierges. Et si le père n'accepte pas de lui donner en mariage, alors il devra dédommager la dot des vierges.
Donc cela...
Si quoi ?
Si
elle n'accepte pas de quoi ?
De se marier avec...
Ah, pourquoi elle a accepté de coucher avec lui ?
Pas pareil.
Non, c'est autodavar. À l'époque, c'est autodavar. Ah, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, mais si tu replaces les choses dans leur contexte, c'est où ? Si elle a accepté, elle a accepté. Ben oui. S'il l'a violé, c'est machouacher, c'est un autre dîme qu'on verra plus tard.
Ben oui.
Le problème, Rab, c'est que si le père il n'est pas d'accord, c'est qu'elle est encore sous la tutelle de son père.
N'accord ? Bah, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est sous la tutelle de son père.
Ah oui,
oui. Eh oui. C'est-à-dire ? Donc, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de nous dire. Et moi j'ai un problème, c'est que je lis la Torah et je sais pas combien c'est. C'est combien Mohar Abetulot, la dot des vierges, Kamazé. Ah parce que si jamais, je veux faire une folie un soir et tout, que je sache combien je dois payer. Kamazé. Bah pourquoi la Torah écrite elle le dit pas? Pourquoi la Torah écrite elle le dit pas?
Dans les coutumes.
Bah parce que voilà, tout le monde le sait.
C'est pas dit dans le barème.
Parce que
c'est pas dit dans le
non. Barème. C'est nulle part. Si remarquez, la notion de Mohar, elle est remarquée. Mais on nous dit jamais combien c'est exactement. Pourquoi c'est pas marqué? Bah parce que tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est quelque chose qui est connu. Qui est connu, Pashut. Et donc, comme c'est connu, Pashut, bah on n'a pas besoin de te dire combien c'est. Ce qui montre à quel point. Eh bien, évidemment que si tu veux comprendre la Torah écrite, eh bien, tu as besoin de la tradition. Tu as besoin de la Torah orale, qui te raconte ce qui s'est passé à l'époque. Et ça t'explique également que le langage utilisé dans la Torah écrite n'est pas intemporel. Il est tout à fait temporel au moment où il est donné. Ce qui la rend éternelle, c'est justement la Torah orale qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire ici, on va donc mettre en place, oui. C'est bon. Ah oui, excusez-moi. Je dis simplement dans la phrase. Ici, on va mettre en place donc la notion de ketouba, sauf que la ketouba, c'est mitzvah des rabbanan. Et donc, c'est nous avons ici un des exemples d'une mitzvah des rabbanan qui est marquée dans la Torah.
C'est ça ?
Eh bien, c'est une question, comment elle est d'Arabanan alors qu'elle est marquée dans la Torah? Eh bien, c'est avec cette question qu'on ouvrira la semaine prochaine.